Dans un premier temps, je vous propose quelques réflexions sur, plus générales sur les expositions aux archives. Donc, pourquoi faire des expositions aux archives ? Valoriser évidemment les fonds, faire vivre un bâtiment et faire découvrir l'institution, ça c'est vraiment nos préoccupations constante et surtout, vous parliez de vulgarisation, je dirais de démocratisation aussi. Hein, c'est-à-dire vraiment, enfin moi je suis convaincue que les archives, ça peut concerner vraiment tout le monde, ça concerne tout le monde puisque c'est l'histoire de tous. Donc partager donc ces connaissances avec le plus grand nombre. Bien sûr, donner à voir des documents originaux, je crois que ça, c'est ce qui est attendu par le public. Et puis peut-être susciter le goût de l'archive, de la recherche, pour ceux qui découvrent cela. Puis il y aurait des tas d'autres raisons de faire ça. Alors, le choix des sujets aux archives, il est extrêmement varié parce que, oui, les archives sont bien le reflet de l'activité des hommes et donc les sujets que l'on peut traiter dans un service d'archives sont vraiment infinis. C'est vrai que l'exposition, c'est peut-être l'occasion, ça peut être l'occasion de valoriser un nouveau fonds d'archives, de nouveaux fonds. D'être au plus près de l'actualité, hein, on a toujours une image un peu poussiéreuse, hein, les archives, ça reste encore, les gens qui ne les connaissent pas, les archives nous imaginent encore dans la poussière. Donc, être dans l'actualité, je trouve que c'est une bonne idée. Profiter bien sûr des manifestations nationales parce que on profite de publicité, mais aussi d'un événement particulier au département ou à la ville où sont les archives. Et je vais donner évidemment deux exemples, c'est le Forum mondial de l'eau, mais je vais le dire. Et c'est souvent vraiment l'opportunité d'une rencontre. C'est souvent cela qui déclenche aussi une idée d'archives. Alors, juste comme ça, quelques exemples. Il se trouve qu'à Aix-en-Provence, il y a un festival tous les ans de la bande dessinée. Et comme nous avons deux bâtiments, on en a un sur Marseille, mais on en a un aussi sur Aix, il nous a paru intéressant de participer à cela parce que bon, il n'y a pas que les jeunes qui lisent les bandes dessinées, mais quand même, ça amène un public qui ne viendrait pas forcément aux archives. Et donc là, c'était un concours qu'on avait lancé à partir d'une affaire judiciaire qui s'était jugée au Parlement d'Aix, qui a eu un succès. C'est un curé, le curé des Accoules, donc le curé du diable, qui avait séduit une Ursuline et donc qui a été brûlé. C'était au début du XVIIe siècle et il a encore été brûlé sur la place d'Aix-en-Provence. Le beau résultat, c'est qu'il y a Casterman qui a édité, elle vient de sortir il y a une quinzaine de jours, qui a édité la bande dessinée. On est évidemment très fiers de cela. Du bateau à la cité, une histoire d'enfermement à Marseille, ça c'est vraiment à partir d'une rencontre avec l'historien philosophe Philippe Artière que vous connaissez certainement, qui est un jeune historien plein d'imagination. Et voilà, je l'avais rencontré sur une conférence et finalement on a eu envie de travailler ensemble sur ces chaînes. Donc, le port de Marseille étant un port ouvert sur la Méditerranée, et pourtant il est toute une série de chaînes qui font qu'on enferme les gens, les marchandises, qu'on retient plus exactement pour des tas de raisons. Et c'était une exposition, j'ai beaucoup aimé faire ça l'an dernier. Là, c'était l'opportunité d'un fonds. Un fonds photographique extraordinaire d'une photographe, Thérèse Leprat, qui dans les années 30 partait avec les messageries maritimes parce qu'elle s'ouvrait au tourisme. Et elle, ce qui l'intéressait, c'était le portrait. Elle est devenue d'ailleurs une très belle photographe de portraitiste. Et puis la dernière, en fin 2012, ça c'était l'opportunité du Forum de l'eau qui se passait à Marseille. Et donc on avait décidé de consacrer toute notre année sur l'eau. Et là aussi, l'opportunité d'une rencontre avec une association de chercheurs, d'historiens d'histoire de l'art, et qui a donné lieu à cette exposition. Donc les expositions, elles se font bien sûr aux archives, c'est faire découvrir ce bâtiment, l'institution, etc. Mais aussi à l'extérieur, par des expositions itinérantes. Et puis notre archive au bus, qui est un énorme semi-remorque, qui est une salle d'exposition itinérante et qui permet d'aller partout. Enfin, partout. Il faut de la place parce qu'il est vraiment énorme. Donc, les petites routes, c'est parfois un problème, mais au moins d'aller sur place pour montrer les choses. Et bien sûr, il y a l'exposition virtuelle, mais bon, c'est peut-être un autre sujet aujourd'hui. Bien entendu, mais ça, vous connaissez ça, il y a les conditions d'exposition des documents. Il faut en tenir compte parce que le document, il est fragile, il est sensible. La chaleur, la sécheresse, la lumière, etc. Donc, il faut tenir compte de tout cela. L'hygrométrie, enfin bon, voilà. Ça, c'était pour surtout les jeunes étudiants conservateurs. C'est vraiment très, très important de tenir compte de tout ça. Alors, un document en mauvais état, c'est vrai qu'on hésite à le présenter. Il y a quand même des exceptions, mais si vraiment ça présente un danger, eh bien, on va renoncer à l'exposer. Et puis exposer une copie dans un bâtiment d'archives, ça, c'est pas bon du tout. Hein. Vaut mieux éviter, mais si vraiment on peut pas le faire, on peut le mettre dans la scénographie, c'est-à-dire faire un paysage avec ces documents qu'on ne peut pas montrer, mais éviter de montrer des copies parce que c'est l'original qui est vraiment l'objet même, hein, qui est le plus intéressant. Alors voilà, sauf exception, parce que j'ai beaucoup depuis 15, 16 ou 17 ans, j'en sais rien, beaucoup travaillé des artistes, et extraordinairement, c'est les documents les plus fragiles, les plus beaux, mais qui les touchent, qui leur font de l'émotion, comme ce registre de notaire d'ailleurs, qui avait été, il y avait une souris qui s'était lovée dedans, hein, qui avait fait son nid, qui a une très jolie forme d'ailleurs, et il y a eu deux artistes qui ont été vraiment inspirés par ce registre. Que, alors mes collaborateurs, ça c'était quand j'étais dans les Alpes d'Haute-Provence, adoraient montrer celui-là, parce que moi pas tellement, parce que c'est pas évidemment, mais bon, du coup on a renoncé à le restaurer. De toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire, faut combler, hein, mais ça lui retirerait vraiment tout son charme. De toute façon, on reconstituerait pas le document. Donc il faut aussi éviter de montrer trop de documents, ça c'est vrai, trop d'écrits. On voit bien, hein, les gens. Bien sûr, il y a ceux qui vont lire tout, qui vont être attentifs à tout, mais on peut pas asséner comme ça de l'écrit. Voilà. Faut pas tomber dans l'écueil aussi de l'extraordinaire, etc. Et puis, surtout, autour de l'exposition, bien entendu, il faut la faire vivre, faire une programmation autour, et ça qui soit adapté à vraiment tous les publics, parce qu'aux archives ne viennent pas que des universitaires ou des historiens. Et vraiment, ça, c'est la démocratisation. Il faut vraiment permettre, mais j'en reparlerai avec l'exposition que je vais vous montrer. Alors voilà, par exemple, des lectures d'archives. Alors, c'est vrai que les lectures d'archives... ça va paraître aux étudiants qui sont là, normal, c'est dans le rapport annuel aujourd'hui, mais on demande combien de lectures d'archives on a fait. Mais je les ai créées à Digne, donc il y a 16 ans, je crois, pour des besoins, pour être sur le territoire, parce que c'est un territoire de montagne, et les gens, évidemment, ne vont pas aller d'une vallée à l'autre, etc. Donc c'était un moyen aussi de démocratiser l'archive, c'était de la dire. Et là, c'est une belle façon, je pense, de communiquer l'archive, de la faire vivre et de la donner au plus grand nombre. Donc, des spectacles, des lectures, je suis revenue en arrière. Voilà. Là, c'est une fête, ça c'est sur le parvis des archives à Marseille. C'était osé quand même de faire un feu devant les archives. Mais toutes les précautions, évidemment, ont été prises pour cela. Et c'était une exposition sur la fête. Et donc, pour la Saint-Jean, il nous a paru que c'était quand même intéressant de faire cela. Et ça nous permettait, parce que les gens du quartier, c'est un quartier populaire, où il y a une population qui vient surtout d'Algérie et des Comores. Et évidemment, ce n'est pas le public, ils ne viennent pas aux archives, ils n'entrent pas. En revanche, quand on fait des choses à l'extérieur des archives, sur le parvis ou dans notre jardin de lecture, puisqu'on a cela, là, et là, on les voyait descendre des immeubles, on les voyait descendre peu à peu, et ça a été une belle soirée. Et puis, un exemple de spectacle qu'on a pu donner avec cette année, l'année dernière, sur l'eau, un merveilleux spectacle sur ces femmes autour de l'avoir, tout ce qu'on peut raconter autour du l'avoir. Donc voilà le sujet sur les harkis, un sujet qui est extrêmement sensible. C'est la rencontre avec cette photographe, artiste photographe Elisa Cornu. Et j'ai vraiment eu envie de faire cela, mais il a fallu convaincre les politiques. Parce que quand j'avais donné la programmation de l'année pour les expositions, mais aussi enfin, toutes les manifestations autour, ça a ému immédiatement le délégué à la culture, le conseiller général délégué à la culture, qui dit « Ah non, vous ne pouvez pas faire ça. » Je lui dis « Mais pourquoi est-ce que ça vous paraît dangereux de parler des harkis ?» Bien au contraire, il y en a énormément dans les Bouches-du-Rhône, comme dans d'autres régions, mais on en a vraiment beaucoup. Ce sont des électeurs, ils sont français. C'est une histoire, c'est vrai, qui est douloureuse, qu'on a, vous l'avez dit, mais c'est vrai qu'on a étouffé, qu'on n'a pas voulu en parler, on en parle très peu. On commence à en parler, mais... Alors finalement, avec deux autres conseillers généraux, ils ont voulu qu'on rencontre la communauté pieds-noirs, qui est extrêmement nombreuse, surtout à Aix-en-Provence. Et puis ça s'est très bien passé finalement, il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter. Mais avec une artiste, on va le voir, c'était plus... Ah, je me suis encore trompée, voilà. Plus facile. En fait, cette artiste a passé plus d'une année avec eux, parce qu'on ne va pas comme ça chez les gens pour les photographier. Hein. Donc, c'est des rencontres. Petite fille, elle passait devant ce camp du Logidane et ça, elle se demandait ce que ça pouvait être, etc. Et puis, en tant que photographe, elle a osé franchir la porte, puisqu'il y avait plusieurs camps, il y avait trois camps autour d'Aix. Mais il y en a un, alors les autres ont été démolis plus ou moins, vous allez voir, mais il y en a un en tout cas où les harkis sont revenus, enfin les enfants, les parents aussi, et les petits-enfants, certains sont revenus, parce que c'est là où, finalement où ils se sentaient le plus en sécurité. Et donc une année à partager avec eux du temps, elle a constitué une série de portraits très simples, très sobres, les harkis, leurs fils et leurs petits-fils. Et au bout d'un moment qu'on a travaillé ensemble, je lui disais ce qui manque, c'est les femmes. Parce que les femmes ont eu un rôle extrêmement important. Elles arrivent avec beaucoup d'enfants, pas de moyens, etc. Enfin, le rôle des femmes a été très fort. Mais les hommes ne voulaient pas. Puis finalement, le temps est passé et ils ont accepté, effectivement, qu'elles puissent photographier les femmes, leurs filles et les petites filles. Donc, des photos, cadrage serré, très simple. Et puis elle est retournée sur les deux autres camps où il y avait encore des traces. La trace est extrêmement importante en archives, mais aussi sur les lieux. Voilà, ce dialogue, elle disait en absence et présence. Donc c'était une représentation donc artistique, symbolique, qui permettait justement de parler de cette histoire douloureuse, de la mettre en lumière par la photographie, alors qu'elle était au contraire, elle l'a appelée quand même Harki au camp des invisibles, justement. Donc ce qui permettait de rendre visible ce qui a été longtemps invisible, faire un travail de mémoire, peut-être de réconciliation, et puis cette entrée symbolique des photographies aux archives. Donc, juste quelques photographies avec leur nom toujours. Ils sont nommés, puisque justement le problème, c'est qu'ils ne l'étaient pas. Hein. C'est qu'on effaçait, enfin, on effaçait leur propre histoire. J'ai trouvé ça, ce travail avec Elisa Cornu, extrêmement fort, émouvant. Et la réaction aussi des Harkis qui sont venus, tous bien sûr, mais pas uniquement ceux d'Aix, qui venaient de Nice, ils venaient de Grasse, ils venaient du Var, ils venaient de Montpellier, parce que pour eux, un événement comme ça parlait. Voilà, par exemple, celui-ci, qui a un regard toujours. Ce monsieur est décédé d'ailleurs depuis. Là, on l'a photographié une fois, puis ensuite il est retourné chez lui, et puis il a mis toutes ses décorations. Pour eux, c'est extrêmement important, bien sûr, puisqu'ils ont combattu pour la France à côté des Français. Lui aussi a été représenté, ce monsieur est décédé aussi. Et voilà, il est là d'ailleurs, puisque c'est son épouse, 8 enfants. Arrivés là sans rien, presque rien. Ils sont partis rapidement et presque rien, comme un peu les pieds noirs, bien entendu, mais eux, refusés par les Français et traités de traîtres par les leurs, quoi. Elle a un regard extrêmement encore plein de douleur. Cette femme, je l'ai rencontrée, elle est... Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment extraordinaire. Et ses enfants ont très, très bien réussi. Alors, vous avez remarqué que les hommes, ils sont en noir et blanc. Elle a choisi exprès le noir et blanc. Et puis, quand elle est retournée pour photographier les femmes, elle me dit, je vais les faire en couleur parce qu'elles sont tellement, leurs vêtements, etc., sont tellement pleines de couleurs, et même dans leurs yeux, il faut que je mette de la couleur pour les femmes. Donc ils étaient face à face dans l'exposition, il y avait un contraste comme cela entre hommes et femmes. Donc là, cette fois, ce sont les fils. Voilà, la plupart étaient là à l'exposition, et ils étaient aussi là pour toute la programmation qui s'est faite autour. Et ça, ce sont les petits-fils. Voilà, c'est des regards différents entre ces trois générations. Donc il y en avait évidemment beaucoup, je ne les ai pas tous vus. Et bien entendu, en écho à ces photographies, bien entendu, on y a mis des archives. Pour rendre visible aussi, il y a les portraits, leurs noms, ils étaient nommés tous, mais aussi, bien entendu, les archives à côté. Et les archives, et c'est l'artiste qui était la scénographe, en fait, de cette exposition et qui a eu cette idée de... Elle voulait absolument qu'ils soient dans des tiroirs. Au début, ça me gênait un peu. Puis finalement, je trouve que c'est une très, très belle idée. Donc, on a construit des meubles avec plein de petits tiroirs. Ça veut dire qu'il fallait aller chercher... C'est encore visible, invisible. Aller faire la démarche pour aller trouver ces documents qui nommaient et qui parlaient de cette histoire, de notre histoire, hein, finalement commune, l'histoire des Harkis qui arrivent ici en France, chez nous. Et là, c'est les traces matérielles des camps, ceux qu'on a alors plus ou moins détruits, ça dépend, puisqu'il y en a deux. Donc toujours, on voit bien la présence et l'absence, c'est-à-dire là c'est en démolition et puis pourtant ben, il y a encore les peaux de mouton qui sont là sur les barres. Voilà, là il y a presque plus rien, juste cette forme comme une maison, mais il ne reste pas grand-chose, dans un terrain. Voilà, c'est vraiment toute leur histoire, ça. Le banc, ça, j'avais beaucoup aimé cette photographie. Il reste juste là, au milieu des herbes, le banc où il venait s'asseoir, très certainement. Voilà. Alors, autour de l'exposition, j'ai mis trop d'écrits là, mais bon, il fallait bien que je vous en parle quand même. Et alors, c'était en septembre qu'on l'a inauguré, donc il y avait les journées du patrimoine. Et on a fait sur le parvis, alors c'est sur Aix, hein, il y a aussi un parvis devant le bâtiment. Et donc on a fait une lecture d'archives, à la fois donc en français pour la plupart, et puis de temps en temps, ces deux comédiens qui faisaient ça, donc un comédien, un poète, qui les lisait en arabe. Et tout d'un et ça se croisait à un moment. Les deux étaient ensemble, l'un un peu plus bas que l'autre, et etc. Et donc, comme si la langue aussi allait se mélanger, allait se faire une histoire commune aussi. Voilà. Et au milieu, il y avait de la poésie. Moi, j'ai vraiment adoré ce moment-là, qui était très fort. Et puis cette langue littéraire arabe prononcée, et j'aurais vraiment aimé qu'ils viennent, mais ça n'a pas été possible, mais qu'ils viennent en dire comme cela, parce que enfin, c'était d'une émotion, cette langue est magnifique, et mêlée comme ça à la nôtre, sur des archives, je trouvais, enfin, ça avait été un moment extrêmement fort. Bien sûr qu'on a travaillé aussi avec des historiens. Donc il y a une brochure, j'en ai porté quelques-unes, donc si je vous les donnerai si cela vous intéresse. Abderrahman Moumen, je le connaissais depuis mon précédent poste, parce que lui est petit-fils de Harki et a fait sa thèse, bien sûr, sur les Harkis en Provence, hein, l'arrivée des Harkis. Et Jean-Jacques Jordi, qui est historien de la guerre d'Algérie. Donc, tous les deux ont travaillé d'abord sur la brochure et puis ensuite une conférence à deux voix. Et c'était assez intéressant. Puis on avait le général Meyer qui lui aussi, vous savez que c'est des... ils n'avaient pas le droit d'emmener, bien sûr, les harkis, les supplétifs. Hein, ils n'avaient pas le droit de le faire. Mais certains militaires ont démissionné pour pouvoir tenir leur parole par rapport aux hommes avec lesquels ils avaient travaillé et s'en est un. Donc c'était trois témoignages extrêmement intéressants. Yves Michaud, philosophe, esthéticien, qui a fait une balade dans l'exposition en fait pour parler de la photographie, de l'esthétique, mais aussi de tout ce que ça voulait signifier dans le regard notamment de ces hommes et de ces femmes. Et puis Boris Cyrulnik. Voilà, c'est aussi, j'ai la chance de le connaître bien parce qu'on a des amis communs et de le voir souvent. Donc, il est venu, au fond, parler de l'exil, hein, de ses difficultés, même les enfants et même les petits-enfants qui ont encore cette douleur. On les a entendus là dans leur tête. Et puis, c'est la fille de Boris, Natacha, qui elle est documentariste et qui a fait un très, très beau travail de film. Et au fond, le premier film réunissait tout le monde parce que dans la salle il y avait à la fois des pieds noirs, des harkis, fils de harkis, petits-fils de harkis, et puis des gens qui ont émigré, qui sont venus habiter à Marseille dans les Bouches-du-Rhône et dont les enfants sont nés, qui se sentent marseillais, complètement marseillais, et en fait il y avait tout cela dans la salle. Et c'était extraordinaire, ces projections. On pouvait partir hein, avec Natacha, ils ne s'occupaient plus du tout de nous. En fait, ils ont discuté ensemble parce que ce qui les rassemblait, c'était l'amour de l'Algérie, qu'ils avaient tous. Et au fond, ils échangeaient ensemble, ils ne s'occupaient plus du tout. Ça a été aussi des moments extrêmement beaux et forts. Et puis, j'ai eu envie de vous mettre quelques je ne sais pas si on les lit bien de loin, mais quelques exemples de ce qui s'est passé dans la... Il y a toujours un livre d'or. Voilà. L'émotion de ces gens qui parlent de leur souffrance. Mais pas forcément... Il y a des harkis, mais pas forcément des harkis. Et là, il a 13 ans, il dit « Merci, j'ai pu voir où vivait mon papa. » Voilà, Inès, 12 ans. Et puis, grâce à vous, Elisa Cornu, cette exposition retrace un demi-siècle de l'émouvante histoire de nos frères de combat, les harkis, etc. Donc pas forcément les harkis. Voilà, des témoignages extrêmement forts. Moi, c'est ce que j'en ai vraiment retiré. Voilà, ça, c'était deux femmes extraordinaires qui sont ni d'Aix ni des Bouches-du-Rhône, hein, je crois qu'elles habitent dans le Var, mais qui se déplacent à chaque fois qu'il y a une manifestation, quelque chose sur les harkis, parce que évidemment c'est leur histoire et qu'elles en ont besoin. Donc c'est vrai que tout ça, ça a permis de montrer, alors justement, de rendre visible l'invisible, et je crois que la médiation d'un artiste, moi je les utilise entre guillemets pratiquement à chaque exposition, même si ce n'est pas à partir d'un travail d'artiste, mais je trouve que ça, c'est vraiment une médiation. Ça permet de parler de choses difficiles, douloureuses, sensibles. C'est comme un passeur, enfin, comme une médiation, quoi. Donc ça a permis d'exposer cette mémoire, l'altérité aussi entre deux populations. Évidemment, ça a suscité l'émotion, le questionnement, etc. Et surtout dans la programmation qui était autour. Et il y avait ce que j'ai entendu, parce que j'ai beaucoup discuté avec eux à toutes ces occasions, et donc ce sentiment de reconnaissance, et surtout d'entrer aux archives. Ça veut dire vraiment que leur histoire, elle fait partie de la nôtre, puisqu'elle rentre dans une institution comme celle des archives en France. Donc, entrer dans notre histoire commune, et pour eux, c'était un moment extrêmement important. Voilà, merci.